Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alexandre Benalla se dirige vers le Sénat ce matin. L'ancien collaborateur de l'Élysée est auditionné à partir de 8h30 par la commission d'enquête. Et les sénateurs devront établir son rôle à l'Élysée sans compromettre l'enquête judiciaire. Subtil équilibre, vous l'entendrez.
Nous reviendrons ensuite sur le plan santé du gouvernement. Il veut inciter les jeunes médecins à s'installer dans des déserts médicaux. Illustration de ce qui se passe déjà en Grande-Bretagne à suivre.
Un sommet européen consacré en grande partie aux questions de migration s'ouvre aujourd'hui en Pologne, à Salzbourg. Mais les positions des uns et des autres sont de plus en plus éloignées.
Le chef du renseignement intérieur en Allemagne a été limogé, accusé de collusion avec l'extrême droite. Mais dans la foulée, Angela Merkel lui a trouvé un autre poste au gouvernement. Nous irons à Berlin.
Et puis hommage en fin de journal à plusieurs personnalités ayant disparu hier. La cinéaste Marceline Loredan-Ivens, qui a connu les camps d'Auschwitz-Birkenau. Et puis le comédien Jean Piat, éternel Robert d'Artois dans Les Rois Maudits. Il est à l'origine de l'une des plus graves crises essuyées par Emmanuel Macron depuis son élection. Alexandre Benalla, ancien collaborateur de l'Élysée, est attendu ce matin devant la commission d'enquête du Sénat. L'audition va débuter dans une demi-heure à 8h30. Alexandre Benalla va devoir s'expliquer sur le rôle qu'il a pu tenir lors de la protection du chef de l'État, sans pour autant évoquer les violences qui lui sont reprochées. Il avait été filmé en train de frapper des manifestants le 1er mai dernier, car Alexandre Benalla est mise en examen pour violence en réunion. Sa défense ne doit donc pas être mise à mal en public devant les sénateurs, au risque de porter atteinte à la séparation des pouvoirs, Antoine Marette.
Une commission d'enquête peut-elle auditionner une personne mise en examen ? L'article 6 d'une ordonnance de 1958 pourrait laisser penser que non. Selon lui, il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Et Alexandre Benalla est mis en examen pour les violences du 1er mai. Mais pour Cécile Guérin-Bargue, professeure de droit public à Nanterre, cela ne constitue pas un frein à l'audition d'Alexandre Benalla par les sénateurs.
Les parlementaires vont pouvoir l'entendre, mais effectivement, il faudra qu'il marche un peu sur une ligne de crête, qu'il fasse attention aux questions qu'il pose, leur liberté de parole sera contrainte par cette nécessité de ne pas empiéter sur les poursuites judiciaires qui sont en cours.
Les sénateurs ne pourront donc pas en théorie interroger Alexandre Benalla sur les violences du 1er mai, mais uniquement sur son rôle auprès du chef de l'État. Et Alexandre Benalla pourra très bien choisir de garder le silence.
Le fait de témoigner devant une commission d'enquête parlementaire vous oblige à dire la vérité lorsque vous décidez de vous exprimer. Mais le serment ne contraint aucunement à la parole, donc il peut parfaitement se taire, ne serait-ce que pour ne pas s'auto-incriminer.
Une commission d'enquête qui entend une personne mise en examen est loin d'être une première. La semaine dernière, cette même commission a auditionné le commissaire Maxence Creusat, également mis en examen.
Et d'ailleurs, après Alexandre Benalla, ce sera au tour, dans la matinée de Vincent Crase, de répondre aux questions des sénateurs, un gendarme réserviste employé à l'époque par La République En Marche, accusé des mêmes faits. Alors l'exécutif, craignant un empiétement du Sénat dans le domaine judiciaire, est ces dernières semaines intervenu dans ce débat. Les sénateurs de La République En Marche vont par exemple boycotter cette audition ce matin. Philippe Bas préside, lui, la commission d'enquête sénatoriale et il n'entend pas laisser Alexandre Benalla se taire ce matin.
Les personnes convoquées n'ont pas le droit de se taire. Ils jurent de dire. Les mots ont un sens.
On peut répondre, je ne sais
toute
pas.
Toute la vérité et rien que la vérité. Voilà.
Il n'y a pas de droit au silence tout à l'heure.
Non, il n'y a pas de droit au silence. On ne peut pas non plus actionner nous-mêmes la langue des personnes qui sont convoquées. Mais au fond, tout ceci s'est passé jusqu'à présent dans un bon esprit.
Petit marquis, la semaine dernière, vous avez trouvé que c'était bon esprit de sa part.
Il n'y a pas de raison que nous ne continuions pas sur le même rythme. Tout ce qui peut se dire en dehors de notre enceinte, sous le coup de l'émotion ou de la colère, nous ne l'entendons pas. Nous nous consacrerons à notre travail et nous le ferons avec la même sérénité que pour les autres personnes qui ont été convoquées devant notre commission.
Le sénateur du parti Les Républicains, Philippe Bas, interrogé par Marc Fauvel ce matin. Une commission d'enquête parlementaire met-elle en danger la séparation des pouvoirs ? Frédéric Seitz y reviendra dans son billet politique après ce journal. Emmanuel Macron dévoilait hier son plan santé, 400 millions d'euros de plus chaque année, la fin du numerus clausus pour les études de médecine, davantage d'hôpitaux de proximité ou encore la création de 400 postes payés par l'État pour des médecins qui s'installeraient dans des déserts médicaux. Un système d'incitation financière donc, ce qui établira des médecins salariés par l'État. C'est déjà le cas au Royaume-Uni, comme nous l'explique Antoine Géniaud.
Ici, pas de différence entre libéral et hospitalier. 85% des médecins généralistes signent un contrat de prestation avec le NHS, le système de santé publique, mais ils ont aussi le droit de développer leurs propres activités privées. Mathilde Mbouksamnik s'est installée à Londres il y a 16 ans.
En tant que médecin, en Angleterre, je me sens plus flexible. Comme je suis chargée de cours, je préfère garder une pratique dans le public parce que c'est un hôpital universitaire. Maintenant, en termes financiers, c'est aussi une bonne chose pour moi de travailler dans le privé.
Mais les contrats de prestation ont aussi un effet pervers. En théorie, les hôpitaux peuvent recruter, mais ils n'ont pas le budget. Le dernier rapport parlementaire montre qu'il manque dans les services d'urgence près de 3000 praticiens, explique le docteur Zeshan Qureshi.
Tout le monde a des contrats qui sont largement imposés. Il y a un énorme problème avec des docteurs surchargés et des hôpitaux qui manquent de personnel. Je connais deux stagiaires en pédiatrie qui se sont suicidés l'an dernier et trois de mes amis se sont suicidés aussi.
La crise de l'hiver dernier avec des patients morts à l'entrée des urgences faute de prise en charge a mis en lumière les manques. Elle pourrait se reproduire au mois de décembre.
Lactalis peut de nouveau vendre sa poudre de lait infantile produite dans son usine en Mayenne à Cran. Le géant de l'agroalimentaire a depuis hier l'accord de la préfecture validé par le gouvernement, 9 mois après la contamination au salmonelle de 36 nourrissons. Nous en venons à ces interrogations autour d'une école hors contrat, l'école du domaine des possibles à Arles, montée par notre invité dans les matins de France Culture, Françoise Nissen, et votre mari. Vous l'avez montée en 2015 en vous appuyant sur la méthode dite Steiner, nous y reviendrons. Depuis quelques mois, cette école est décriée par certains, démissions de professeurs, interrogations de parents d'élèves, mécènes qui ne suivent plus, ce qu'évoquait hier le quotidien La Provence. Fin juin, le directeur pédagogique et son épouse ont été mises à la porte après avoir prôné l'anthroposophie, un courant ésotérique créé il y a plus de 100 ans. Avant de vous faire réagir, Madame la Ministre, voici les explications de Cécile de Kervas-Doué.
L'idée de l'école, c'était de proposer une alternative au système éducatif, un projet porté par la ministre de la Culture et son mari à la suite du suicide de leur fils de 18 ans. L'école hors contrat a donc ouvert en 2015, dirigée par ce couple qui représente la trentaine d'écoles Steiner en France. Elle compte aujourd'hui 150 élèves à qui il est proposé pour 4 à 6 000 euros par an un rythme scolaire plus détendu et un contact avec la nature et les arts plus poussé. Mais ce n'est pas tout, raconte Marie Drillon, membre de l'UNEDFI, qui défend les familles contre les dérives sectaires. Des parents et des enseignants de l'école lui ont téléphoné pour lui faire part de leurs inquiétudes. Ils pensaient y trouver une pédagogie alternative, sauf que l'école Steiner n'a rien à voir avec les écoles Montessori ou Freinet.
Pour moi, l'anthroposophie, c'est une religion. Voilà, et c'est pas, on a le droit, hein. Simplement, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a un fondateur, il y a des croyances, il y a un dogme, il y a des rituels. Ce qui s'est passé là, par exemple, à l'école du possible, avec le rituel de la spirale de l'Avent, c'est qu'entre autres, un certain nombre de parents n'avaient jamais entendu parler de ça et se demandaient de quoi il s'agissait. Vous avez des branches de sapin par terre en spirale, alors que la communauté autour, les enseignants, chantent, les enfants vont aller jusqu'au centre de la spirale, là, pour allumer leurs bougies, ce qui a une signification pour les anthroposophes. Et ça prime, à mon avis, sur la connaissance, l'acquisition du savoir tel que la plupart d'entre nous, en tout cas, l'attendent de l'éducation nationale.
Ce prosélytisme a-t-il à terme gêné la ministre et son mari? En tout cas, le conseil d'administration de l'école a remercié le couple qui l'a dirigé. En 2016, le rectorat de Versailles, qui avait inspecté une trentaine d'écoles hors contrat, avait lui pointé du doigt de vrais problèmes d'apprentissage dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Françoise Nissen, y a-t-il vraiment aujourd'hui un manque d'apprentissage dans cette école et est-ce que vous prenez vos distances ?
Alors, pas du tout, je vous rappelle, vous l'avez dit que j'ai créé cette école avec mon mari en 2015 et aujourd'hui je ne m'en occupe plus puisque je suis ministre de la Culture, mais je rappelle que je l'ai créée effectivement suite à la disparition de mon fils et fort du constat que certains enfants ne trouvent pas leur place dans le système scolaire. Et cette école a été créée pour offrir une possibilité à des enfants qui ne trouvent pas dans un circuit classique les apprentissages. Et depuis le début, cette école a été créée sur le principe d'attention aux enfants pour qu'ils aient le désir d'apprendre, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils soient fondés. Exact. Bon, donc, tout ce qui est dit là...
Que répondre aux inquiétudes des parents d'élèves? Mais on a entendu dans ce reportage.
Vous avez entendu, je ne sais pas si vous avez, on a entendu des parents d'élèves. En tous les cas, pour, elle a été fondée absolument dans l'idée que ce soit pas une école avec la moindre étiquette pédagogique qui soit aujourd'hui.
Donc, ce qui veut dire que l'anthroposophie, parce que c'est un mot qui fait peur, on dit que c'est une secte. Est-ce que vous vous sentez proche de ce mouvement?
Ah, mais. Il n'est absolument pas question d'anthroposophie dans cette école. Enfin, c'est un fondamental. C'est une école pour les enfants, pour leur donner le désir d'apprendre et pour qu'ils soient des adultes, deviennent des adultes heureux, émancipés, responsables. Et il n'est pas question d'autre chose. Aujourd'hui, je ne m'en occupe plus parce que je suis ministre de la Culture.
Le directeur pédagogique qui a été mis à la porte cet été était proche de ce courant.
Écoutez, c'est sans doute parce que le souci des dirigeants de l'école... et effectivement d'être dans une école sans étiquette qui s'occupe d'abord des enfants. Et donc, il y a dû avoir un différend entre eux. Et donc, effectivement, ce n'est pas du tout une école Steiner. Enfin, je récuse ça absolument.
Merci Françoise Nyssen. Vous restez avec nous pendant encore au moins 40 minutes dans les matins de France Culture.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent à partir de cet après-midi à Salzbourg en Autriche.
Oui, pour un sommet, un conseil informel, essentiellement consacré aux questions d'immigration. Malgré la profonde fracture au sein de l'Europe, les dirigeants vont tenter de trouver les plus petits dénominateurs communs sur ce sujet explosif dans la communauté. Bertrand Galich.
Même le renforcement des moyens de l'agence Frontex pour contrôler les migrants aux frontières extérieures de l'Europe ne fait plus l'unanimité à quelques heures de ce sommet de Salzbourg. En juin, un accord semblait à portée de main, mais vendredi dernier, Viktor Orban, furieux du vote du Parlement européen contre la Hongrie, a lancé un pavé dans la mare au nom de la souveraineté nationale. Il accuse l'Allemagne de vouloir remplacer les gardes-frontières hongrois par des mercenaires envoyés de Bruxelles. L'autre idée esquissée au printemps pour gérer les flux migratoires, la création de centres contrôlés chargés d'étudier la situation des migrants, reste au point mort. Aucun pays européen n'est volontaire pour accueillir ces centres. Certains voudraient les implanter hors de l'Union européenne, voire en Afrique, mais le projet patine. Le ministre autrichien de l'Intérieur suggère, lui, d'effectuer un tri entre réfugiés et migrants directement sur des bateaux. La Commission européenne espère un consensus pour simplifier le retour des migrants et la France tient au respect du principe de solidarité entre États malgré les gouvernements qui continuent de fermer leurs frontières aux réfugiés.
L'accueil des migrants, c'est une question qui avait poussé au début du mois des milliers de militants d'extrême droite dans la rue, en Allemagne, à Chemnitz notamment. Nous vous en parlions ici même. Le chef des renseignements intérieurs outre-Rhin était mis en cause depuis, accusé de sympathie avec l'extrême droite. Eh bien, il a été limogé hier. En théorie, la chancelière Angela Merkel aurait donc réussi à sauver sa coalition. Mais dans les faits, cela illustre quand même sa faiblesse politique, Nathalie Versieux.
Angela Merkel a obtenu la tête de Hans-Georg Maaßen, le très contesté chef des services de renseignement. Mais ce qui apparaît comme une victoire à première vue prend de plus en plus des allures de camouflet pour la chef du gouvernement. Hans-Georg Maaßen, critique envers sa politique migratoire, va en effet rebondir comme secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur sous la protection de Horst Seehofer, le plus contestataire des ministres d'Angela Merkel. Avec 3000 euros de plus par mois dans ses nouvelles fonctions, Maaßen va même connaître une juteuse promotion. Le chef du parti néo-communiste Die Linke, Dietmar Bartsch, dénonce une farce.
Le ministère de l'Intérieur est utilisé comme rampe de lancement pour des fonctionnaires qui ne sont plus tenables. Visiblement, ça vaut le coup de ne plus être loyal envers la chancelière. Ce gouvernement n'est plus qu'en mode de gestion de crise, c'est la coalition de ceux qui ont perdu les élections et au bout d'un an seulement, elle a déjà échoué.
Les Verts parlent, eux, d'une nouvelle crise de confiance, tandis que le parti d'extrême droite AfD se frotte déjà les mains.
La Corée du Nord aurait promis de fermer son site d'essai de missiles de Tongchang-ri. C'est en tout cas ce qu'annonce le président sud-coréen Moon Jae-in, qui est en visite en ce moment chez son voisin du Nord. Il précise que Kim Jong-un accepte la présence d'inspections internationales. Le dirigeant nord-coréen, lui, n'a pris la parole que pour annoncer une visite prochaine à Séoul, au sud, dans un avenir proche. Une telle visite serait une première depuis la division de la péninsule. La cinéaste Marceline Loridan-Ivens est décédée hier, amie de Simone Veil. Elle l'avait rencontrée pendant la Seconde Guerre mondiale dans le camp d'Auschwitz-Birkenau à l'âge de 15 ans. Profondément marquée par ce qu'elle a vécu jusque dans son corps, Marceline Loridan-Ivens a passé sa vie à dénoncer l'injustice et la violence. Elle avait 90 ans. Autre disparition, celle de Jean Piat, monstre sacré du théâtre, inoubliable roi maudit dans le feuilleton de 1972. Le comédien était Robert d'Artois. Il est l'un des éléments déclencheurs de la guerre de Cent Ans.
Madame ma tante, tout est perdu.
Avez-vous perdu, Robert? Un autre procès?
Oh, je ne ris pas, ma tante.
Le moment est malvenu.
Nous sommes dans la main du roi.
Ma tante... Nous avons eu ensemble des différends. Dieu m'est témoin que je vous ai souhaité tout le mal possible. Mais pas cela. Pas cela qui touche à l'honneur.
Diable, pour la première fois, tu m'inquiètes. Il faut que tu sois bien sûr de ton coup pour faire ainsi durer le plaisir. Eh bien, parle.
Ma tante, vos filles, mes cousines, sont convaincues d'adultère.
Et arrêtez, sur l'ordre du roi. Et Marguerite avec elle.
Jean Piat avait 93 ans. Jean Piat à la télévision, vous venez de l'entendre. Au théâtre, surtout, sociétaire de la Comédie française, jouant 400 fois Cyrano de Bergerac.
Le voilà donc, ce nez, qu'il est prêt de son maître à détruire l'harmonie. Il en rougit le trait.
Jean Piat s'est donc éteint 8 mois après sa compagne, la romancière et comédienne Françoise Dorin. Il avait 93 ans. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, je me retourne vers vous. Jean Piat, comédien reconnu à la palette très large, il a su jouer à la fois du classique et des feuilletons télévisés, on l'a entendu.
Voilà, encore un grand homme qui part, drôle de journée. C'est tous les arts qui sont en deuil. Paul Virilio.
Urbaniste
et qui a beaucoup parlé de la vitesse, qui est un mal peut-être en certaines circonstances. Marceline Loridan, bien évidemment, et maintenant Jean Piat. Et ces trois personnages ont en commun d'avoir été habités par ce qu'ils font et le souci de transmettre jusqu'à la dernière seconde.
Merci Françoise Nyssen. Vous l'avez évoqué effectivement, la mort de Paul Virilio, il avait 86 ans. La météo très rapidement de ce mercredi qui débute, encore assez chaud avec un temps calme et sec. Ce matin il fait 20 degrés à Rennes, 21 à Paris, comptez 22 degrés à Bordeaux, 24 à Besançon et 26 à Nice.